Europe 1 Culture Média.
9h, 11h. Pascal Clark.
Bonjour, bonjour, et pourquoi pas? Pourquoi pas tout changer, reconfigurer le GPS de l'ignorance? 2 mois et demi et plus de 100 000 morts plus tard. Finalement. Donald Trump découvre les vertus du masque. Point de presse à la Maison-Blanche hier, le premier depuis la fin avril. Ces sondages sont en berne, la Floride, le Texas, l'Arizona voient leur taux de Covid exploser. Enfin, le président américain avance masqué. Il recommande aux Américains de le porter. On aura quand même tout vu, tout entendu depuis le début, avec ce petit pic quand même dans le n'importe quoi. Souvenez-vous quand Trump, fin avril, recommandait l'injection d'un désinfectant.
And then I see the disinfectant.
J'ai l'impression que le désinfectant aussi détruit en une minute le virus. Alors, peut-être qu'il faudrait en injecter dans le corps, comme une sorte de nettoyage des poumons, par exemple.
Plus de 141 000 morts du coronavirus aux États-Unis, plus de 60 000 nouveaux cas chaque jour. Il semblerait que l'eau de Javel ne suffise plus. Au menu ce matin de Culture Média, un mois après leur réouverture, les salles de cinéma françaises tirent la langue. Fréquentation divisée par 4 par rapport à un été normal, la faute notamment aux blockbusters américains qui désertent les écrans. Combien de dégâts, on en parle. Quand le désert avance, quand le sable grignote et devient obsession, drôle de ville pour une rencontre sur France 5 se pose ce soir en Mauritanie, dans une ville du Sahara. C'est un inédit. Alexandra Alévèque vient nous raconter ces 2 semaines ensablées. Dans la deuxième heure, un été particulier, programmation spéciale à Paris. L'adjoint à la culture Christophe Girard sera avec nous, Culture Média jusqu'à 11h tout l'été sur Europe 1. Belle matinée à vous, ça commence maintenant. Et bonjour Martin Cangelosi.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Place au journal des médias. Martin, qu'avez-vous aujourd'hui ?
Des candidats pour France TV qui font tomber le masque devant un jury à moitié masqué et Society qui veut démasquer l'un des fugitifs les plus masqués de tous les temps.
Vous êtes comme Trump ? Vous portez le masque maintenant ?
C'est Trump que vous dites. Vous ne dites pas Trump, c'est Trump.
Ouais, Trump, Donald.
On fait des audiences maintenant ?
Oh bah volontiers, alors là les audiences, je les attends. Martin.
Hier, TF1 première avec sa série Joséphine Ange Gardien, 3 millions de téléspectateurs. Juste derrière France 2 avec le nouveau magazine de Stéphane Bern, et Si les murs pouvaient parler, 2 500 000 téléspectateurs. Et pour fermer la marche, France 3 avec sa nouvelle série Au-delà des apparences, 2,2 millions de téléspectateurs.
Culture Média. À la une de ce journal des médias, la suite et la fin des auditions pour connaître le futur président ou la future présidente de France Télé.
Premier sur le grill hier, Christopher Baldelli. Alors lui, c'est le challenger, on en a parlé, c'est celui qui a déposé son dossier en secret, c'est celui qui veut vraiment l'emporter. Et on a tout de suite vu que Christopher Baldelli n'était pas là pour rigoler, mais alors vraiment pas du tout. Il se présente devant le CSA en costume et cravate noire et d'emblée, il dégaine.
Si nos concitoyens devaient payer pour accéder à l'audiovisuel public, combien seraient prêts à le faire ?
Oui, les Français, dit-il, trouvent les programmes de France Télé très mauvais. Ils ne veulent pas payer s'ils avaient le choix. Christopher Baldelli vise notamment un type de programme, la fiction.
La fiction, c'est naturellement un outil formidable pour le lien social, pour comprendre la société dans laquelle on vit. Mais quand on regarde les fictions dans notre pays, et là je ne parle pas que du service public, on y voit rarement des problèmes de fin de mois.
Il faut de la proximité, du lien social. Le deuxième candidat auditionné hier fredonne exactement la même musique. Pierre-Étienne Pommier. Alors lui, c'est l'outsider, c'est le politique expert des campagnes. Et pour savoir ce que veulent les téléspectateurs, il veut piquer une idée à un ancien patron du service public, Hervé Bourges. Bon, c'était tout de même il y a 3 décennies.
Cette bienveillance me rappelle celle d'Hervé Bourges, qui lisait tous les dimanches, matin, après-midi, le courrier que les téléspectateurs lui adressaient personnellement. C'était ça aussi, à l'époque, l'audiovisuel public, créer des liens, le patron de la télé qui lit le courrier qu'on lui adresse.
Et il faut croire que tout le monde s'inspire du passé, Martin.
Après le déjeuner, hier, c'est le tour de Delphine Ernotte, l'actuelle présidente de France Télé. Les membres du CSA sont en pleine digestion, mais pour les réveiller, la présidente du service public leur déclame son amour de la télé. Elle cite un livre de sociologie de 1983.
Je voudrais finir par une formule vieille de 40 ans, et pourtant toujours si juste. Étrange objet que la télévision. Dès qu'on tire sur un fil, c'est toute la société qui vient.
C'est joli, non ?
Très beau.
Bon, soyons honnêtes, Delphine.
Très ancien, mais très beau.
C'est très beau. Soyons honnêtes, Delphine Arnaud, quand même, après, fait tout pour prouver qu'elle est une femme d'avenir. Elle veut moderniser notamment le site France TV, France.tv, le site France.tv. Comprenez, moderniser le site France.tv, ça veut dire qu'il ne faut pas être comme Netflix avec son algorithme sans goût ni saveur. Écoutez.
Je pense qu'il faut qu'on réhumanise France.tv. HBO est en train de le faire. Et je pense que c'est notre rôle de remettre voilà, de l'expression, une forme de parti pris, des points de vue de vrais gens sur notre offre France.tv.
Vous auriez dit HBO comme Trump, non ?
Peut-être bien, oui. Mais HBO, pourquoi pas ?
Fin d'après-midi hier, il fait 32 degrés dehors. Il fait aussi très chaud dans la salle du CSA. Un des membres du jury a même le masque qui commence à glisser juste en dessous de son nez. On frôle la cata en termes de gestes barrières. Heureusement, il ne reste plus qu'un candidat à écouter. C'est Serge Simio, journaliste politique et syndicaliste de la maison.
Simio, non ?
Simino, qu'est-ce que j'ai dit ?
Simio, mais bon, une petite contraction, rien.
Serge Simino, forcément, lui, il veut d'abord penser aux salariés en bon syndicaliste et il promet d'améliorer leurs conditions de travail.
Dans l'arrière-boutique, on méprise, on discrimine, on marginalise. Le choix vous reviendra avec ma dernière interpellation, si vous le permettez, cette citation de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Alors permettez-nous, salariés, représentants de l'organisation syndicale dont je porte les aspirations et à moi-même, d'y croire.
Mark Twain. Ce matin, Mark Twain.
Mark Twain, PDG, pourquoi pas ?
Alors, Serge Simino, a-t-il raison d'y croire ? Le CSA est en train de délibérer en ce moment même. Résultat attendu d'ici vendredi.
On termine avec une affaire qui passionne encore et toujours. Ici, il y a quelques jours, on parlait de Netflix qui veut aider à résoudre l'affaire Xavier Dupont-Ligonnès. Eh bien, ce ne sont pas les seuls. Society aussi. Society sort demain un numéro spécial et une grande enquête que vous avez pu lire en avant-première. Y a-t-il vraiment des choses ?
Il y a des choses. La première partie de cette enquête demain avec 36 pages. Alors au début, soyons honnêtes, c'est joli. C'est un peu comme lire une carte postale, ou plutôt deux cartes postales. La première est envoyée depuis Nantes, là où habitait Xavier Dupont de Ligonnès, sa femme, leurs quatre enfants et leur chien. En fermant les yeux, on entend les mouettes jacasser, on sent le sel de la mer sur ses lèvres. Et puis il y a une deuxième carte postale postée, celle-ci depuis le Var. C'est là que Xavier Dupont de Ligonnès a été vu pour la toute dernière fois. On sent l'odeur des pins, on entend le chant des cigales. Bref, avec cette enquête, on s'y croit. On est au plus près de Xavier Dupont de Ligonnès dans ces dernières semaines et parfois à la minute près.
Ouais, très vite, fini les cartes postales, ça dérape.
Ouais, parce qu'au fil des secrets de Xavier Dupont de Ligonnès, on découvre surtout deux potes du meurtrier. Il y a Michel, l'ami des road trips aux États-Unis. Et puis il y a un certain Emmanuel. Alors lui, Emmanuel, il se pose beaucoup de questions. Écoutez l'un des rédacteurs en chef adjoint de Society, Pierre Boisson. Il nous parle de cet Emmanuel et de ses errements.
Et se pose une question pour lui, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, si votre meilleur ami, que vous connaissez depuis que vous avez 14 ans, s'avère être un assassin et qui venait vous voir pour vous demander de l'aide ? Donc nous, on s'est intéressé à tous ces personnages-là qui n'ont jamais été mis au centre de l'affaire.
Suite et fin de l'enquête dans 15 jours. Alors allez savoir, peut-être que Society a retrouvé le fugitif au fin fond d'un monastère, à moins que le journal...
Où ça sera quand même, non ?
À moins que le journal l'ait aperçu sur le tarmac d'un aéroport en Écosse, allez savoir.
Ah oui, rire, lol.
J'ai écrit ah,
sur bah oui, c'est pour ça. Martin Cangelosi, le journal des médias, tout l'été sur Europe 1. Et musique et chansons françaises pour mon titre de l'été. Voici ce matin Charles Aznavour, Vers les docks.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média. Pascal Clark.
Ils étaient attendus comme le Messie, mais non, les blockbusters américains ne viendront pas sauver l'été du cinéma français déprogrammé les uns après les autres. Un mois, tout juste, après leur réouverture, les salles tirent la langue, perdent de l'argent et demandent un plan de relance. Bonjour Richard Patry.
Bonjour madame, bonjour à tous.
Vous êtes le président de la Fédération nationale des cinémas français qui représente la quasi-totalité des 6000 salles du pays. Ça va du multiplex à la salle d'arrêt d'essai. Vous dirigez vous-même, Richard Patry, 17 salles. Un mois après la réouverture, quelle est l'ampleur de la baisse de la fréquentation par rapport à un été normal ?
Elle est importante, mais je dirais qu'il faut relativiser un peu les choses. Ce qui est important, c'est que d'abord, la France a réouvert ses salles. Les salles de cinéma ont joué un rôle citoyen très important. Les salles sont réouvertes partout sur le territoire, les grandes, les petites, les circuits itinérants. Toutes ces salles sont réouvertes. Alors, c'est vrai qu'on va dire que globalement, la fréquentation tourne autour d'un tiers de ce que l'on ferait, ce que nous ferions normalement sur une période similaire. Alors, vous allez me dire, un tiers, forcément, c'est pas beaucoup, et mes collègues tirent la langue, vous le disiez dans votre lancement, ils tirent la langue parce qu'ils perdent énormément d'argent. Néanmoins, on peut, et je suis normand, donc moi je vois toujours les deux côtés des choses, on peut toujours voir le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Il y a quand même 4,5 millions de spectateurs sur ce premier mois qui sont revenus au cinéma. C'est quand même beaucoup, 4,5 millions de spectateurs. Ça veut dire que les Français ont profondément envie d'aller au cinéma et que leur problématique actuellement, au-delà des gestes barrières et au-delà de leurs préoccupations sanitaires, mais qui sont excessivement bien traités dans les salles de cinéma, qui ont été prises à bras-le-corps, qui sont totalement respectées et qui d'ailleurs n'ont pas évolué récemment malgré les annonces du Premier ministre. C'est toujours le même protocole sanitaire dans les salles de cinéma, c'est-à-dire l'obligation du port du masque quand vous vous déplacez dans la salle, mais par contre la possibilité de l'enlever, la possibilité, bien sûr on ne vous force pas, mais la possibilité de l'enlever quand vous êtes assis. On sent que les gens ont besoin, ont envie de retrouver ouais. leur salle de cinéma.
Vous êtes sûr de ça, monsieur Patry ? Parce que est-ce que vous êtes sûr que les gens ont envie, ont à nouveau envie de cinéma ? C'est un climat particulier, c'est l'été, il y a ce port du masque. Alors qu'est-ce qui pêche en fait ? C'est l'offre qui pêche ou c'est l'envie qui n'est pas tout à fait là ?
C'est vraiment un problème d'offre. Alors après, il y a une partie du public qui n'est pas là. Hein. C'est-à-dire que, vous savez, au cinéma, il y a deux grandes familles de spectateurs, les habitués et les occasionnels. Les habitués sont là. Les gens qui aiment le cinéma, qui y vont régulièrement, pour qui c'est une culture, eux, ils sont là, on les voit. C'est les occasionnels, c'est-à-dire les gens qui viennent pour les films. Et objectivement, les films, même si les distributeurs français ont fait de gros efforts et que nous avons des films français de qualité, il n'y a pas de film américain, il n'y a aucun film américain. Ouais. Alors, les films américains sur l'été, c'est 70% des entrées. Normalement.
Alors je vais être un peu cruel et vous faire écouter, Monsieur Patry, une bande-annonce un peu fantôme, hein, celle du film de Christopher Nolan, tellement attendu, Tenet.
Je n'ai qu'un mot à vous donner. Tenet, il vous ouvrira les bonnes portes et parfois aussi les mauvaises.
Oui, vous disiez, Monsieur Patry, la part des grosses productions américaines dont la fréquentation un été normal, c'est plus de 70%. Est-ce que ça veut dire aussi, parmi les occasionnels que vous mentionniez à l'instant, que c'est surtout le jeune public qui manque à l'appel en ce moment ?
Et oui, c'est plutôt effectivement les ados, les jeunes qui manquent à l'appel. On a des comédies, donc on a la famille. On a des films plutôt de qualité, type art essai, donc on a la tranche la plus cinéphile, généralement la plus friande qui a du temps, et donc les seniors. Il nous manque effectivement beaucoup, beaucoup les jeunes actuellement dans les salles. Ça c'est une évidence.
Alors pas de Tenet, pas de Top Gun 2, pas de Wonder Woman 1984, pas de nouvelles non plus du prochain Disney Mulan, et pourtant il y a des films français dont certains sont très bons, très honnêtes, parfois même populaires. On a choisi de vous faire écouter quelques extraits de trois films français sortis cet été. On va les reconnaître ensemble, écoutez.
Salut toi.
Salut.
C'est le divorce cut.
Réveille-toi Ben, t'es célibataire maintenant. Y'a plus personne pour t'engueuler quand tu t'abuses.
C'est qui ?
À cet instant précis, il n'y avait rien au monde que j'aurais pu lui refuser. Je voulais passer tout mon temps avec lui. Et pourtant, quand j'étais avec lui, cela ne me suffisait pas non plus.
Non, pour le coup, il a pas tort. C'est pas super ambiance. Tiens, j'invite à mon anniversaire 5 imams, on va pas mettre une ambiance de ouf. Non, c'est vrai, en termes d'ambiance.
C'est pas un noir, ça. Je vous demande l'Afrique, vous me ramenez Montreuil.
Avec par ordre d'apparition à l'écran, Divorce Club de Michael Youn, Été 85 de François Ozon et Tout simplement noir de Jean-Pascal Zadi. Ça ne suffit donc pas ?
Ça ne suffit pas parce que d'habitude, il y a beaucoup plus de films que ça. Si vous regardez individuellement les résultats de chacun de ces films, les résultats sont plutôt satisfaisants. Divorce Club, pour une première semaine, va faire 250 000 entrées. Été 85, film de François Ozon, va faire 100 000 entrées. Tout Simplement Noir, sur ses deux premières semaines, en est quasiment à 400 000 entrées. Les chiffres alors sont en dessous de ce que c'est normalement. Je vous le disais, il y a quand même un problème de retour des gens. Mais ce qui change la donne, c'est que les films restent très longtemps à l'affiche. Si vous prenez La Bonne Épouse, film que nous avons repris le premier jour de la réouverture, qui était un film en place au moment de la fermeture. Aujourd'hui, si vous regardez sa fréquentation, il continue à faire des entrées très régulièrement. Il va passer la barre des 600 000 entrées et il se dirige vers le million d'entrées. C'est-à-dire qu'avec l'été, c'est un film qui va certainement atteindre le million d'entrées. Donc, il y a des comportement radicalement différent, puisqu'il y a beaucoup moins de films, les films ont de la place en salle. Donc, nous, on pense vraiment qu'il y a un problème d'offre. Alors après, c'est vrai que certains spectateurs ont certainement peur de revenir. On peut pas cacher ça. Mais pour nous, le problème essentiel actuellement, c'est l'offre. Et cette offre américaine, vous l'avez dit, nous ne l'aurons pas cet été. Enfin, on va l'avoir parce que vous imaginez qu'on discute énormément sur les films américains dont vous parliez, Tenet et Mulan. Nous continuons à discuter et nous allons avoir, je pense, de bonnes nouvelles dans les prochains jours. C'est-à-dire que ces films vont quand même arriver plutôt sur la fin de l'été, mais disons que les studios américains...
Vous avez une date déjà de programmation ?
Non, on n'a pas de date encore pour l'instant, mais néanmoins, nous discutons à l'échelle européenne avec les représentants des studios et ils ont enfin compris que la pandémie était tellement exceptionnelle et que la crise aux États-Unis était tellement forte qu'il va falloir arriver à ce que ces films sortent en Europe avant de sortir aux États-Unis, ce qui, pour les studios américains, est quelque chose de très, très, très compliqué à faire. Mais cette idée que l'Europe sortirait en août, alors que l'Amérique sortirait plutôt en septembre ou en octobre, c'est une idée qui fait son chemin. On continue énormément à discuter avec eux. Et voilà, les salles sont quasiment réouvertes dans tous les pays d'Europe. Il manque ces films. Et encore, on parle de la France. Nous avons la chance d'avoir une cinématographie française forte, qui nous sauve un peu. Si vous regardez des pays comme l'Espagne, des pays comme l'Allemagne, des pays comme la Grande-Bretagne, la situation est 10 fois plus catastrophique qu'en France, puisque eux, ils reposent uniquement sur les films.
Peut-être une sortie donc des blockbusters américains en Europe avant les États-Unis, c'est ce que vous semblez indiquer. On va quand même évoquer les dégâts, parce qu'il y a des dégâts et il y a des salles qui vont fermer. Richard Patry est avec nous. Ne quittez pas, on revient.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Richard Patry, président de la Fédération nationale des cinémas français. On a parlé du verre plein. Tentons maintenant aussi de mesurer le vide. Quels dégâts à prévoir ? Est-ce qu'il y aura des salles au tapis ? Est-ce qu'il y aura des emplois supprimés ? Le savez-vous déjà ?
Les dégâts vont être très importants, bien sûr, si vous voulez. Aujourd'hui, les salles fonctionnent à un tiers de leur capacité, on vient de le dire, et on sait, puisque effectivement, à cause de la pandémie aux États-Unis, les films américains ont été repoussés, on sait que ces films arriveront plus tard. Donc on va continuer à perdre de l'argent. Une salle de cinéma, ça fonctionne comme un train. Les coûts sont les mêmes qu'il y ait une personne ou 10 personnes. Là, on est à 3, alors qu'il devrait être 10. Donc bien sûr, elles perdent actuellement énormément d'argent. Elles tiennent parce qu'elles pensent avoir un rôle social, elles tiennent parce qu'elles pensent qu'il faut animer la cité, elles tiennent parce qu'il y a plein de Français qui ne vont pas partir en vacances et que la moindre des choses, c'est que le cinéma à côté de chez eux reste ouvert pour pouvoir se faire une sortie. Néanmoins, quand vous avez une entreprise ou une association, parce qu'on a si beaucoup d'associations et que vous perdez de l'argent, ça ne peut pas durer très 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 longtemps. Il va donc falloir qu'il y ait un plan de soutien massif pour la filière cinéma et pour les salles en particulier. Pour la filière cinéma, pour nous aider à tenir cette période qui va être plus longue que nous avions prévu, cette période de vache maigre qui va être plus longue que nous avions prévu. Et puis pour l'ensemble de la filière, parce que tout simplement, si le système des salles de cinéma s'effondre en France, c'est la totalité de la filière cinéma qui va s'écrouler. On l'a bien vu pendant la pandémie avec les 100 jours de fermeture. Quand les cinémas sont fermés, il n'y a pas de recettes, il n'y a pas de fiscalité et tout s'arrête.
Monsieur Patry, restez avec nous. On va prendre l'exemple de la salle Le Palace à Montluçon. Nous sommes en ligne avec l'exploitant du cinéma, donc Le Palace, joli nom, 5 salles. Bonjour Frédéric Dubougneau.
Bonjour Pascal Clark.
Le Palace est fermé actuellement ?
Oui, il est fermé depuis le 7 juillet. Alors, dans un contexte particulier par rapport à mon exploitation, du fait que Le 24 juin, j'avais des personnes à risque dans mon personnel qui n'ont pas pu reprendre leur travail. Et donc, j'étais, pour l'ensemble du reste du personnel, obligé de fermer 4 semaines pour les congés payés. Et puis, bon, voyant la fréquentation comme elle était depuis le 24 juin, avec une fréquentation qui est en dessous de nos prévisions, même les plus pessimistes.
Vous avez des chiffres, vraiment, c'était la
catastrophe. On était à peine 25% de fréquentation. Ouais. Donc, on était sur une base comme... l'ensemble des collègues, de mes collègues de Cinéo, là, un groupement où on est à peu près à moins 73% de baisse de fréquentation.
Monsieur Dubourgneau, vous envisagez quand même une réouverture début août. Vous allez tenter à nouveau de rouvrir, même si ce n'est pas rentable?
Alors, je rouvre certainement, sûrement, le 5 août, avec tous les films dont vous avez parlé, Divorce Club, ET85, et puis Tout simplement voir. On est obligé, là, maintenant, les congés payés est passé pour mon personnel, on est obligé de rouvrir, puisque nous avons, comme le disait Richard Patry, une vision d'animation. Nous sommes un cinéma de centre-ville, d'hypercentre, où on génère du flux pour tout ce qui est les bars, les restaurants et les commerces autour du cinéma et dans le centre-ville. Mmh. Donc, ma mission est aussi de reprendre le plus vite possible. Et l'ayant fermé pour les congés payés, c'est une décision de chef d'entreprise que j'ai prise, parce que c'est directement sur ma trésorerie. Là, on n'a pas de chômage partiel dessus.
Monsieur Dubourgneau, est-ce que votre salle est menacée?
À moyen long terme, elle peut l'être, en effet, puisque les trésoreries se tendent naturellement. L'endettement des entreprises et de mon entreprise peut également s'alourdir, parce que le PGE, même si c'était une bulle d'oxygène, donc le prêt garanti par l'État, ça risque d'être un endettement supplémentaire si dans un an on ne peut pas le rembourser par notre trésorerie. Donc ça sera un endettement supplémentaire qui nous empêchera de relever des emprunts pour investir dans nos salles. Donc jusqu'à la fin de l'année, on a peu d'espoir de retrouver également nos jauges. Donc les films américains n'étant pas là, l'offre des films français étant difficile. Bon, je ne vais pas reprendre tous les arguments de tout à l'heure de Richard Patry, mais... Oui, c'est très très compliqué. Bah, on a besoin de mesures d'urgence rapidement, car les pertes sont irrécupérables dans le temps pour nous.
Merci beaucoup Frédéric Dubourgneau. Allez donc au cinéma à Montluçon et bon courage à vous. Richard Patry, président de la Fédération nationale des cinémas français, avez-vous déjà eu l'occasion de parler à la nouvelle ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, puisque vous attendez des aides de l'État? C'est un SOS.
Alors on a beaucoup parlé à son cabinet. Je n'ai pas encore vu la ministre, mais j'ai un rendez-vous dans les jours qui viennent avec elle, hein, puisque il est clair que on a un vrai problème technique majeur, si vous voulez. C'est que l'argent du cinéma, on a toujours l'impression que le cinéma est financé. On dit que c'est de l'argent public, mais non. L'argent du cinéma, c'est l'argent du public. C'est quand vous venez au cinéma, quand vous regardez la télévision, que vous alimentez ce système exceptionnel qui a été créé dans les années juste après la guerre, qui s'appelle le compte de soutien et qui permet d'aider le cinéma français. Sauf que quand la machine s'arrête, il n'y a plus d'argent du public qui rentre et donc le système est totalement grippé. Mmh. Et donc si l'État n'intervient pas massivement pour remettre de l'argent, pour relancer le système va s'écrouler. Et donc effectivement, il y a péril en la demeure, hein. Mmh. Il faut être clair, le système qui fait notre fierté, qui fait qu'on est capable de réouvrir les salles et de faire quand même un tiers des entrées normalement faites sur les films français, ce système-là aujourd'hui, il est complètement à l'arrêt. Et s'il n'y a pas d'une intervention forte de l'État, et parce qu'il n'y a pas d'autre solution, s'il n'y a pas pour débloquer le système, eh bien le système va rester groupé et c'est tout le système qui va s'écrouler.
Merci.
C'est-à-dire les salles de cinéma, les tournages, la production, les chaînes de télévision. Hein. Canal+, c'est très très...
Oui, c'est une chaîne, on a bien compris. Merci beaucoup Monsieur Patry, Richard Patry, président de la Fédération Nationale des Cinémas Français. On vous souhaite beaucoup de force pendant cette période difficile et puis donc vous attendez la rencontre avec la nouvelle ministre de la Culture. À chacun son désert, drôle de ville pour une rencontre vient ce soir sur France 5. Alexandra Alévèque vient nous raconter son séjour dans le sable. A tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Pascal Clark.
C'est une série documentaire qui allie l'humain à l'extrême. Drôle de ville pour une rencontre revient ce soir avec un épisode inédit. Ce sera le cas tout l'été, chaque mercredi 20h50 sur France 5, déjà la saison 3. La journaliste Alexandra Alévèque passe du temps dans des villes dignes de figurer dans le livre des records, la plus dense, la plus froide, la plus haute, et ce, au plus près des habitants. Bonjour Alexandra Alévèque.
Bonjour Pascal.
Drôle de ville, comme on dirait... Des villes spéciales, hein, très spéciales pour le coup. Vous n'avez pas dû rire tous les jours depuis le début du programme. Enfin si, j'imagine que par moments vous avez ri avec les habitants, mais pas que quand même. C'est difficile hein, pour vous.
Pas que, c'est vraiment... Non mais vous avez raison, c'est exactement ces deux choses-là. C'est-à-dire qu'on a vraiment le côté extrême et compliqué de certaines villes. Et puis le fait de m'installer dans les familles, puisque je reste 2 semaines auprès d'eux, on se marre bien, vraiment on se marre bien. Et en l'occurrence, celui de ce soir en Mauritanie, le père de famille s'appelle Salima, et c'est un type qui était extrêmement drôle. Donc on a beaucoup ri en Mauritanie, même si c'est une ville super dure.
Oui, on va parler de lui et de son goût pour le football. Ouais. Il est supporter du Real Madrid. Hein. Alors dans le numéro ce soir, on va faire Google Earth un peu, on va situer, on zoom. Hein. Donc l'Afrique... Le Sahara, la Mauritanie, la petite ville de Tshingeti, et puis le sable, tellement de sable qui gagne, qui s'immisce, qui bloque, qui ronge. Qu'est-ce que vous ne soupçonniez pas avant de partir là-bas ?
Bah j'avais jamais vraiment passé beaucoup de temps dans le désert de sable. Et on mesure pas à quel point d'abord ce Sahara, il est aux portes des maisons. C'est-à-dire que la ville, elle est vraiment en plein milieu du désert. Alors à dire comme ça, ça semble tout bête. Sauf que effectivement, quand vous vous levez le matin et que vous sortez de la maison, les dunes, elles sont là, elles sont sous votre nez. Et en fait, le vent fait que les dunes, elles sont plus seulement à votre porte, elles sont dans votre maison, quoi. Le Sahara rentre dans les maisons et, comme vous dites, il les ronge. C'est un drame, hein.
Ouais, c'est un drame, effectivement. Ce documentaire, en tout cas, m'a vraiment fait penser à une chanson.
Quand le désert avance, c'est la vie qui s'en va. La faute a pas de chance. Ou Dieu qui nous foudroie.
C'est exactement ça, hein.
C'est exactement ça.
France Gall, Michel Berger, quand le désert avance, c'est ça que vous avez ressenti. Par moments, vous dites que finalement. Ce sable, c'est presque comme de l'eau et on pourrait comparer ça aux inondations.
Exactement. C'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, j'ai eu très vite la sensation que ces gens habitaient au milieu de l'océan et qui vivaient dans des petites barques et qu'ils écopaient avec des petites cuillères. C'est-à-dire qu'ils balayent. Ils balayent sans cesse leur maison. Ils essayent de repousser les dunes, de consolider les habitations. Mais c'est peine perdue, à tel point que cette ville, elle est très ancienne, hein, parce qu'elle est sur le chemin de la Mecque, donc elle est très 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 ancienne, les caravanes passaient par là, et en fait, on a construit sur les anciennes habitations. C'est-à-dire que comme de toute façon le Sahara gagne, eh ben on surélève les maisons. Donc il y a déjà 2 étages d'habitation à Tshingeti.
Oui, c'est ça. Vous habitez donc chez Salima, sa femme Aïchetou et leurs 3 enfants, famille de paysans. Salima travaille dans la palmeraie. Drôle de ville pour une rencontre ce soir dans Tshingeti, l'ensablé. On écoute un extrait, c'est la faute au vent.
Ce vent chaud et sec arrive tout droit du nord de l'Afrique et traverse tout le Sahara. 4 mois par an, il fait vivre l'enfer aux habitants du Tshingeti. Depuis l'accélération du dérèglement climatique, il souffle plus souvent et surtout plus violemment.
Moi, ça me rentre dans les yeux. C'est terrible, ce sable.
Ça pique, hein? Mais alors, c'est ce vent-là qui fait que ta maison, elle est bouffée par le sable?
Oui, c'est ça. Pendant les tempêtes, le vent apporte du sable en traversant le Sahara. Résultat, les dunes avancent dans la ville et le lit de la rivière se remplit de ce sable. C'est ce vent qui est responsable de la désertification. De toute façon, il y a beaucoup trop de sable.
Alexandra Alévèque, tout est difficile dans ces conditions parce que tout ce qui est fait est à refaire. Le sable ne cesse de gagner. Il faut dégager la porte, les fenêtres, les puits. Il faut recommencer. Ça pourrait rendre fou, non ?
Ça pourrait, ouais, mais franchement, eux, ils ont, bah voilà, ils sont, ils vivent là, ils ne veulent pas quitter leur ville, mais c'est vrai que moi, ça me rendait un peu dingue parce que avec Aïchetou, régulièrement, on nettoyait la maison, mais inexorablement, 2 heures après, en fait, tout est à refaire, quoi. Tout est à refaire. Et ça, c'est du petit quotidien. Mais elle parle du lit de la rivière. En fait, il y a un oued qui traverse, qui coupe la ville en deux. Mais il y a plus d'eau depuis Belle Lurette.
Quand même, heureusement, il y a ces oasis où poussent des légumes. Et d'un seul coup, c'est comme un autre monde.
Ouais, c'est vert. C'est comme vous l'avez dit, Salima travaille dans une palmeraie. Et l'eau arrive à profusion parce que Shingeti s'est installé là évidemment parce qu'il y avait de l'eau, sinon les hommes se seraient pas arrêtés. Et effectivement, le terme d'oasis, il fait rêver bien sûr, mais de fait, au milieu de ce paysage désertique, il y a ces palmiers, ce vert. La différence de couleur, elle est frappante, mais parce que c'est la vie en fait, tout simplement.
Et vous, même si vous n'avez passé que 2 semaines sur place ou non. Ouais. Pouviez plus du sable.
Bah ouais, parce que les jours où il y a vraiment beaucoup de vent, et c'est assez plat, hein, les dunes, elles font pas des centaines de mètres de haut. Donc en fait, on se prend le vent en pleine poire tout le temps. Et bah vous voyez bien que vous êtes sur la plage quand il y a du vent, c'est insupportable. Bah là aussi, c'est jour et nuit, c'est permanent. Ouais, ça rend un peu dingue pour les yeux, c'est pas génial. Hein.
Alexandra Lévesque et ses drôles de villes sont dans Culture Média. On vide un peu de sable et puis on revient.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Des conditions extrêmes dans Drôle de Ville pour une rencontre, mais pas que. Alexandra Lévesque, l'aspect humain de vos séjours dans ces villes pour le programme de France 5, c'est évidemment votre immersion. Vous vivez pendant 2 semaines chez des habitants. Comment les trouvez-vous, ces gens qui vous accueillent ?
On est aidé par ce qu'on appelle des fixeurs, qui sont en général des journalistes, donc des gens qui vivent sur place et qui nous aident à trouver les familles. Alors il arrive qu'on les oriente. Si on a envie de parler d'un milieu professionnel particulier, on demandera à ce que le papa ou la maman exerce ce métier. Mais c'est vraiment des fixeurs sur place qui nous aident, parce qu'à distance, c'est très compliqué. Souvent, on va chez des gens qui n'ont évidemment jamais vu notre émission, qui regardent pas forcément la télé, donc il faut aller les voir, faut discuter, ça prend du temps. Donc on fait appel à des gens sur place, et puis après, voilà, j'arrive avec ma valise, et puis je m'installe comme vous savez, comme les corresponsants allemands quand on était au collège. Ben
oui,
voilà.
Les correspondants. Ouais.
Je suis la correspondante qui débarque. Quoi.
Ouais, quand même, il y a un ton à trouver, j'imagine, avec les habitants. C'est pas évident. Est-ce que la question s'est posée?
Oui et non, bien sûr elle se pose, mais je suis... En fait, la question elle est vite répondue. Je me suis tout de suite dit, il faut que je sois très exactement comme je suis dans la vie. Mais je faisais la même chose quand j'incarnais la série 21 jours sur France 2, c'est-à-dire qu'il faut être extrêmement naturel. Et puis voilà, ça passe, il faut être poli, ma maman m'a appris à être très poli. J'aide au travail quotidien, la cuisine, que sais-je. J'essaye de prendre le moins de place possible, alors que vous imaginez bien que j'en prends beaucoup. Mais non, ça, c'est relativement... alors, je ne sais pas si on a eu de la chance, mais ça se passe toujours extrêmement bien avec les familles, parce qu'on s'amuse. Et parce que souvent, en fait, s'ils acceptent de me recevoir, c'est qu'ils sont curieux aussi de recevoir... une Française, j'allais dire même la France. On a une cote à l'étranger, Pascal.
Toujours.
Vous n'imaginez même pas. Ah ouais. Moi, quand j'arrive, je suis entre Gabriel Chanel, la Tour Eiffel et le général de Gaulle.
Oui, mais c'est lourd à porter,
c'est incroyable. Hein. Ben oui, c'est lourd à porter. Ah non, on a une cote incroyable à l'étranger, et où que ce soit. Hein.
Alors vous, évidemment, Alexandra Lévesque, vous ne faites que passer, c'est le principe. Vous logez souvent dans des gens qui sont dans la pauvreté. Comment ça se passe? Est-ce que la production les aide une fois le tournage terminé? Est-ce que vous avez des cadeaux? Je sais pas.
Ouais. Alors j'arrive. Oui, j'arrive toujours avec des cadeaux pour toute la famille, les enfants, les parents, et puis on les défraie évidemment parce que je mange pendant 2 semaines. L'équipe est souvent avec moi, donc voilà, il arrive qu'il reste dîner avec nous. J'occupe une chambre quand même pendant 2 semaines, et puis on les met à contribution pour le tournage. Donc oui, bien sûr, ils sont défrayés pour les 2 semaines, ce que je trouve totalement normal.
Vous restez en contact avec ces familles? Est-ce que vous vous êtes attaché parfois?
Oui, je reste en contact. Les seuls avec qui j'ai peu de contact, c'est une famille qui est au Bénin, à Ganvier, parce qu'ils ont un accès extrêmement limité à Internet. Il n'y a pas d'électricité dans le village. Donc, eux, c'est quand même un peu compliqué. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, etc., je reste en contact avec pas mal de gens, ouais, pas mal de familles, ouais, bien sûr.
Vous avez un carnet d'adresses mondial désormais. Un peu extrême, mais mondial.
Ouais, c'est classe. Hein.
Vous avez déjà affronté pas mal d'adversités, hein, de villes extrêmes, puisque nous en sommes à la saison 3 de cette série documentaire sur France 5. On va récapituler un peu. Écoutez.
Oh, mamita, ma meilleure amie bolivienne. On a bien rigolé. Ah, ça, c'était à Ganvier, au Bénin. Les hommes m'ont obligée à me baigner dans les toilettes. Enfin, je vous expliquerai plus tard. Cela fait 3 ans que je sillonne le monde d'une drôle de ville à une autre. Il y a donc eu la plus froide, la plus aquatique, mais aussi la plus folle, la plus heureuse, la plus en altitude.
Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour vous? Quelle ville? Quel épisode?
Je pense que c'est Manille. Je pense que c'est Manille aux Philippines, ouais, qui est la ville la plus dense au monde. Mais c'est pas sa seule particularité. C'est une ville qui est extrêmement polluée, qui est extrêmement pauvre. Il y a des centaines de bidonvilles à Manille. Moi-même, je vivais dans un bidonville, donc dans une maison en dur quand même, une toute petite maison, avec une famille. On était en moyenne, je sais plus, 6 ou 7 dans la maison et donc dans la chambre. C'est une ville très bruyante. C'est vraiment très compliqué. Et encore une fois, la pauvreté, pour nous occidentaux, et c'est quelque chose là-bas qui m'a été un peu compliqué à vivre au quotidien. Je pense que c'est Manille, ouais.
Ouais. D'autres exemples un peu compliqués?
La Sibérie quand même, parce que quand il fait moins 40, c'est pareil, c'est comme le Sahara. Sur le papier, on se dit, ah oui, moins 40, c'est froid. Non, moins 40, c'est l'enfer. C'est saisissant. Et surtout, il y a quelque chose que moi, j'avais pas mesuré avant de partir, c'est que vous ne pouvez pas quitter la maison en précipitation. Vous savez, parfois, on est en retard, on part de chez nous, on prend les clés rapido sur la petite table et on se casse. Là-bas, c'est pas possible. Si vous vous habillez pas correctement, si vous oubliez vos gants, soit vous perdez vos mains, soit vous rentrez chez vous pour récupérer vos gants. C'est-à-dire que tout est extrêmement réfléchi. Si vous n'êtes pas assez couvert, vous risquez votre vie, en fait. Oui, et c'est pas anodin, ça, quand même, au quotidien.
Non, ce serait un peu comme si vous étiez obligé, disons, d'aller dans un monde où on doit porter un masque.
Alors voilà, c'est un petit peu ça. C'est à peu près aussi rigolo. Je crois que porter le masque, c'est encore moins rigolo, franchement.
Mais qu'envisagez-vous pour les prochains tournages? Parce que la question va se poser, j'imagine.
Bah, la question, ouais. Alors, j'essaye de ne pas trop me la poser. La question va se poser. Après, quand on fait de l'image, c'est compliqué quand même de ne filmer que des gens masqués. Donc, on a pour l'instant reporté 2 tournages, ne serait-ce que parce que les frontières étaient fermées. Mm-hmm. Donc, on devait partir au Japon au mois d'avril et en Inde au mois de juin. Ces 2 épisodes-là, vous les verrez l'an prochain, j'espère. Et maintenant, on attend de voir à quelle sauce on va être mangé. Mais si ça dure comme ça, et si effectivement le monde entier doit rester masqué, il faudra qu'on décide effectivement si on travaille dans ces conditions. Je sais pas franchement. J'en sais rien, c'est compliqué. Hein.
Ouais, c'est très compliqué. Est-ce que vous vous êtes découverte tout au long de ce programme? Est-ce que vous apprenez des choses sur vous?
Un peu, ouais. Je me découvre une certaine endurance. Parce que je suis pas quelqu'un de... Je suis pas une baroudeuse, moi, en fait, hein, dans la réalité. Hein. J'ai un dos en compote, j'aime pas dormir par terre. Et pour autant, pour cette série, je le fais. Et ça ne me pose pas de problème.
Rapidement, Alexandra, quelle ville cet été dans ces inédits?
Alors, donc, Chinguetti ce soir en Mauritanie. La semaine prochaine, on ira à Longyearbyen en Norvège. Longyearbyen, c'est la ville la plus au nord du monde. Donc, c'est dans un archipel norvégien sur l'île du Svalbard. Mm-hmm. Et là, le 5 août, ce sera un album souvenir, on va dire.
D'accord, merci
un
beaucoup.
Un album souvenir des 6 premières destinations. Ben, merci à vous, Pascal.
Merci, Tignetti, effectivement, réalisé par Jérôme Mignard, il faut le dire, ce soir, 20h50, sur France 5. Merci beaucoup à Alexandra Lévesque d'être passée par Culture Média. Après 10 heures, culture estivale dans la capitale avec Christophe Gérard. Les infos arrivent.
Europe 1, Culture Média. Pascal Clark.